Bienvenue aux Apatrides Anonymes, émission du 20 mai 2021, il est 18h30 en studio. Mathieu au micro en compagnie de Marie-Ève.
Bonsoir Mathieu, bonsoir tout le monde.
Bonsoir, bonsoir Simon.
Salut.
Salut, salut. Donc, une émission en direct, évidemment, pour ceux et celles qui nous écoutent, sinon en balado sur notre page sur le site web de choc.ca. Pour nous rejoindre en tout temps, vous avez notre site apatridesanonymes.info ou notre courriel apatridesanonymes@resist.ca. Sinon, notre page FB pour plein d'actualités qu'on alimente à peu près tous les jours. Donc, bienvenue à cette émission, donc bien chargée, beaucoup d'actualités. Dans le menu aujourd'hui, nous parlerons un peu de la Palestine, Israël, de ce qui se passe là-bas avec un autre angle en fin d'émission. On parlera aussi des actualités autochtones avec Simon. On aura une entrevue avec une membre du PASC, Projet Accompagnement Solidarité Colombie, pour parler de la situation en Colombie, dont on parle moins depuis 2 semaines, mais que ça continue à brasser pas pire depuis au moins 1 mois. Sinon, on parlera aussi, il y aura une minute coloniale, le grand retour de la minute coloniale.
Le retour.
On vous dit pas c'est quoi le sujet tout de suite, c'est une surprise. Plein de bonne musique aussi, des petites nouvelles à travers ça. Et on va commencer dans quelques instants avec Marie-Ève et les enjeux d'immigration Québec-Canada. Marie-Ève, si tu me permets, j'ai une petite brève pour nos auditeurs, auditrices.
Bien sûr, Mathieu, prends tout ton temps.
Merci. J'aurais pu parler de Suéta aujourd'hui, c'est beaucoup dans l'actualité cette semaine, mais on avait déjà préparé notre émission, donc ça brasse pas mal depuis 2 jours. On en parlera sûrement dans 2 semaines, parce que c'est une autre dynamique intéressante, géopolitique, Maroc, Espagne et compagnie. Hein?
Oui, les tirs de lacrymogènes sur le bord de la plage.
Soldats en camouflage qui courent dans l'eau. Marie-Ève, tu nous as souvent parlé de ce temps, Émilie, là, donc on en reparlera. Donc, j'avais une petite brève, une nouvelle un peu ironique et absurde. Le titre, c'est « La Banque du Canada prône une reprise économique inclusive ». Et j'ai oublié des extraits de l'article, c'est assez drôle, mais triste en même temps. « Le Canada ne guérira pas complètement des blessures économiques de la COVID tant qu'il n'aura pas remédié à l'impact inégal de la pandémie sur certains secteurs et travailleurs », a estimé le gouverneur de la Banque du Canada, qui s'appelle Tiff McClam. Vous savez, c'est quoi la Banque du Canada? Hein? C'est une institution assez réactionnaire et assez conservatrice.
Ben, coloniale, en plus.
Coloniale et très politique.
Ben, ils ont ajouté une femme noire sur le billet de 10 $.
Oui, c'est vrai. Ça, c'est la monnaie royale du Canada, je pense.
Ah, c'est pas la Banque? Okay,
non,
pardon.
Là, c'est la Banque du Canada, l'équivalent de la Réserve fédérale aux États-Unis. Oui, qui régule l'économie. Donc, M. McClam a affirmé que le fait d'attirer des travailleurs sur le marché pouvait être... Non, attendez un instant. Il suggère aux entreprises de se concentrer sur l'embauche des personnes les plus durement touchées par la pandémie, comme les femmes, les Autochtones, les Canadiens racialisés, c'est le terme utilisé, et les personnes handicapées. Il a affirmé que le fait d'attirer ces travailleurs sur le marché pouvait aider les entreprises à prendre de meilleures décisions et à stimuler la production potentielle de l'économie grâce à un cycle d'augmentation des revenus suivi de la demande pour les biens et services. Bon, ça, c'est le capitalisme de base, là, je pense, l'économie de marché de base. Il a aussi expliqué que la Banque centrale devait également faire sa contribution en soulignant la nécessité d'améliorer la diversité aux échelons supérieurs de l'organisation. Il a ajouté que la Banque centrale examinerait ses programmes d'achat d'obligations et les baisses de son taux d'intérêt directeur pour voir s'ils ont créé des inégalités à travers le pays. Parce qu'on sait que ce qu'ils font souvent, c'est acheter des obligations, ça réduit les coûts d'emprunt pour les prêts hypothécaires et les prêts aux entreprises, ce qui favorise pas beaucoup les plus pauvres et les petits travailleurs ou les gens sans revenu ou à faible revenu. Il a même expliqué que le programme d'assouplissement quantitatif pouvait accroître la richesse en faisant grimper la valeur des actifs détenus dans des régimes d'épargne retraite et de retraite des entreprises, mais ces actifs ne sont pas distribués également dans la société et ça peut ainsi causer des inégalités de richesse, il a déclaré. On apprend beaucoup de choses, hein, Marie-Ève, tu sais, c'est...
Mais je trouve ça... La Banque du Canada vient de lire sur les théories de l'intersectionnalité.
Et de l'économie participative.
Oui, c'est ça, mais appliquée aux obligations d'épargne et au rendement.
Au régime de retraite, oui, non, c'est ça. Fait que elle va étudier, la Banque du Canada, donc les impacts aux pays à l'étranger pour mieux comprendre ses actions sur les inégalités de revenus et de richesse. Et peut-être, celle-là est quand même pas pire, il faut garder à l'esprit les avantages de l'inclusion pour la mise en œuvre de la politique monétaire. Là, c'est comme...
Hey, c'est du.
Ça, c'est un discours qu'il a donné devant des universitaires en Atlantique.
Je comprends rien. Hein.
OK, ben, je vais finir avec deux citations, Simon, de monsieur le gouverneur de la Banque du Canada. Ce n'est pas une idée nouvelle, mais les effets très inégaux de la pandémie montrent qu'il est plus urgent que jamais d'agir. Et ensuite, plutôt que de viser simplement à regagner le terrain perdu, pourquoi ne pas chercher à améliorer l'économie pour qu'elle offre des possibilités à tout le monde? C'est parce que non seulement c'est du réchauffé, il vient de nous dire que le capitalisme, ça cause des inégalités. Je pense que depuis 200-300 ans, il y en a quelques-uns qui ont écrit là-dessus. Mais je trouve ça à la fois naïf, à la fois hypocrite. Ça fait penser un peu à Trudeau, tu sais, qui va parler d'environnement, d'acheter un pipeline, tu sais, ce genre de comportement-là. Et mais moi, ce qui m'avait frappé, c'est l'inclusivité, puis que dans le fond, les travailleurs marginalisés aient des meilleurs revenus, donc puissent plus dépenser, puis faire rouler l'économie. C'est toujours ça le discours du capitalisme qui se dit à l'écoute, là, et ouais, adapté, là. Fait que c'est pas une grosse nouvelle, mais je trouvais ça quand même drôle et ironique de cette espèce de discours un peu de surface. Simon?
Donc de l'inclusivité et de la racialisation.
Oui, c'est ça, exactement.
On s'en va dans la bonne direction.
Oui, puis les entreprises vont engager toutes les personnes handicapées, évidemment, et tout ça. Donc,
demain matin.
Donc voilà, c'était ma petite nouvelle un petit peu hors champ, mais désolé. Bon, ben Maria, tu nous ramènes sur le plancher des vaches avec...
ou des bœufs, ouais, ça dépend.
Ou des bœufs. Parler d'immigration, d'enjeux, donc, en lieu avec les gens qui arrivent ici. Donc, dans ton premier bloc, la saga des délais de traitement des demandes de résidence permanente qui se poursuit.
Ben oui, c'est parce que ça finit pas, cette histoire-là.
On a parlé,
c'est sûr,
déjà,
toi, t'en as beaucoup parlé, Mathieu, tu sais, mais je pense que ça valait la peine de revenir parce que, tu sais, c'est à force, je trouve, c'est à force d'en parler puis de revenir sur comment ça s'est passé que là, on prend vraiment la mesure du côté ridicule, en fait, du jeu de ping-pong entre Québec puis Ottawa dans ce dossier-là. On va commencer par des chiffres quand même. Excusez-moi, je vais vous assommer avec ça. Mais parce qu'il faut dire que il n'y a jamais eu autant de personnes migrantes qui ont attendu pour être admis au Québec et jamais aussi longtemps en plus. Mm-hmm. Donc, à l'heure où on se parle, là, il y a un peu plus de 50 000 travailleurs qualifiés déjà sélectionnés par le Québec et même qui sont déjà ici là pour la grande majorité qui se retrouvent là dans l'inventaire. C'est un mot qui va revenir tout souvent.
L'inventaire,
là, mais
OK.
C'est comme ça que les ministères l'appellent. Là. Donc, dans l'inventaire des demandes de résidence permanente qui doivent être traitées par Ottawa.
Il y a un genre de backstore rempli de main-d'œuvre.
Oui, c'est ça.
Des arriérés à Marie-Ève. Hein?
Ben, c'est ça. C'était, Mathieu, tu me devances. Pour simplifier, il s'agit d'un arriéré que doit en priorité traiter le gouvernement fédéral pour que de futurs candidats à l'immigration choisis par Québec puissent finir par venir dans la province. Donc, à titre de comparaison, là, comme je vous disais, c'était 50 000 là, à l'heure actuelle. À titre de comparaison, en 2018, cette liste-là comptait à peu près 37 000 personnes. Elle avait ensuite diminué, surtout à partir de 2019. Devinez pourquoi? Parce que le gouvernement Legault avait diminué le nombre d'immigrants admis au Québec. Donc,
les fameux seuils, hein?
Voilà. Ouais. Ils avaient diminué de 50 000 à 40 000, mais aussi parce qu'ils avaient réduit le nombre de personnes sélectionnées par Québec. Cette mesure-là avait donc permis à Ottawa de piger dans cet inventaire-là, qui avait fondu à peu près à 21 000 personnes l'année passée. Mais là, depuis un an, le nombre de dossiers non traités, puis par dossier, un seul dossier peut comprendre plusieurs personnes, ben le nombre de dossiers a presque triplé. Il est passé de un peu moins de 10 000 à presque 25 000. Radio-Canada a même dévoilé qu'au début d'avril, selon un document qu'ils ont obtenu là, par la loi sur l'accès à l'information, il y a près de 7 000 enveloppes de résidence permanente qui n'avaient même pas été ouvertes par les bureaux d'immigration au Canada. Mm-hmm. Si on parle des délais, ben, le gouvernement fédéral, lui, estime que les travailleurs qualifiés doivent patienter à peu près 27 mois, donc un peu plus de 2 ans, pour obtenir leur résidence permanente après avoir, évidemment, été sélectionnés par Québec. Dans les autres provinces, ben, on parle d'un délai d'environ 6 mois. Il y a plusieurs demandeurs qui ont même dû attendre des mois, voire même plus qu'un an, avant de recevoir ne serait-ce qu'un simple accusé de réception. Notre ministre de l'immigration provinciale, Nadine Giroux, avait nié les estimations avait commencé par nier les estimations, ouais, du fédéral en parlant plutôt de 13 mois, donc la moitié de ce qui était estimé. mais elle s'est ravisée assez vite après avoir pris connaissance des chiffres que Radio-Canada lui avait transmis. Chiffres d'ailleurs que son équipe, à elle, avait affirmé ignorer. Donc, par courriel, le cabinet de la ministre assure n'avoir eu, là, de la part d'Ottawa, que le nombre qui provenait de l'inventaire de traitement, ça veut dire, donc, les personnes qui ont eu un accusé de réception. T'sais, fait qu'on joue vraiment sur les mots. Et donc, là, cette saga de à qui la faute, hein, on se jette la balle. De son côté, le fédéral rejette la faute en premier sur la pandémie, évidemment. Elle a le dos large. Plus précisément sur les restrictions de voyage généralisées et le travail à distance. Mais aussi, évidemment, sur Québec. Il dit avoir dû ralentir le traitement des demandes en raison de la réduction des seuils du gouvernement de la CAQ. Il y a même, dans une demande de renseignement qui était datée de décembre 2020, le cabinet du ministre canadien de l'immigration, qui est Marco Mendicino, avait affirmé qu'en ce qui concerne les dossiers du programme des travailleurs qualifiés de 2019, le secteur a connu un moratoire temporaire, j'utilise le mot moratoire entre guillemets, parce que c'est le mot qu'il avait utilisé, moratoire donc apparemment demandé par Québec, et que par conséquent le traitement se poursuivait à un rythme lent. Ton préféré, Mathieu, Simon Rollin-Barrette,
ouais,
informé de la déclaration de monsieur, c'est quoi déjà Mancini, son nom? Mendicino. Il a nié catégoriquement avoir convenu avec Ottawa d'une telle décision. Là, l'équipe de Marco Mendicino a finalement admis une erreur de traduction dans les documents présentés en français, que c'était pas vraiment moratoire qui aurait dû être utilisé, mais plutôt pause. Donc, c'était une pause qui avait été décidée pour prendre le temps d'abord prioriser la vérification des informations dans les dossiers avant de passer aux nouvelles demandes. Selon le Devoir, le gouvernement du Québec aurait délivré un plus grand nombre de certificats de sélection à des travailleurs qualifiés que ces quotas ne permettaient d'en admettre, ce qui aurait contribué à gonfler l'inventaire et d'allonger les retards. La ministre, de l'Immigration, Nadine Giraud, a nié évidemment toute responsabilité en disant que le Québec a demandé à Ottawa d'accélérer le traitement des dossiers. C'est le fédéral qui n'a pas été capable d'aller plus rapidement. C'est lui qui a créé une accumulation dans l'inventaire en immigration en 2020. Mais moi, je soupçonne quand même que le système Arima, hein, qui devait être le Tinder de l'immigration, il est certainement pas étranger. Près de 2 ans après son lancement, cette plateforme-là, dont le coût, faut le rappeler, le coût de fonctionnement est chiffré à 3,6 millions pour 2020 seulement. Donc, ce programme sélectionne en effet très peu de personnes migrantes. À la fin de 2019, plus de 150 000 déclarations d'intérêt là, qui avaient été faites par des personnes qui désiraient s'installer au Québec. Or, sur toute l'année 2020, il y a seulement 628 demandeurs qui ont été invités à poursuivre leur démarche sur les 150 000. Ça, c'est pour 2020. Là, à date, pour 2021, là, en date de fin avril, 303 personnes avaient reçu cette invitation-là du gouvernement du Québec. Donc là, il resterait environ 70 000 déclarations d'intérêt valides, sauf que là, ce chiffre-là va drastiquement diminuer parce que les déclarations d'intérêt non traitées deviennent automatiquement invalides après 12 mois. Tu sais, ils s'effacent.
C'est un Tinder assez VIP exclusif, là, si je comprends bien.
Oui. Il n'y a pas grand monde qui a accès, finalement, ouais, c'est ça.
En tout cas, il n'y a pas grand match, ou je ne sais pas comment ça marche, mais ça ne marche pas pantoute, cette affaire-là. Pour le groupe Québec, c'est nous aussi, on devrait admettre directement ces 51 000 personnes-là pour qu'on puisse comme reprendre le fil des choses. Ça permettrait à tous les programmes de refonctionner à nouveau, puis à toutes ces personnes-là de sortir de la précarité. Et pour l'Association québécoise des avocats et avocates en droit de l'immigration, la décision fédérale a évidemment eu un fort impact là, sur la santé et le moral des candidats, candidates à l'immigration. L'association accuse aussi le provincial d'avoir établi des seuils d'immigration sans se poser la question de l'impact qu'ils allaient créer pour des milliers de familles.
Ben oui.
Parce que, tu sais, dans le fond, si c'était juste l'attente qui était difficile, ben là, on se dirait, bon, OK, il faut juste s'armer de patience. Mais là, à cette attente-là, il faut ajouter le silence radio des autorités, la crainte que le dossier soit perdu, ce qui est déjà arrivé, l'impossibilité de quitter le territoire puis d'aller visiter ses proches dans le pays d'origine par crainte de ne plus pouvoir revenir, tous les examens médicaux qui sont demandés, les permis de travail temporaires qu'il faut renouveler, puis tout ça dans un contexte de COVID-19. Donc, vraiment, c'est...
Écoute, Marie-Ève, j'aurais pu te répondre avec plein d'autres programmes qui fonctionnent mal, plein d'autres mauvaises décisions du gouvernement du Québec et du fédéral.
Du fédéral n'est pas tellement mieux.
Mais moi, je dis que c'est quand même la faute du provincial, la CAQ. On en a parlé assez souvent.
Mais moi, je vais dire que Mme Giraud, c'est pas vrai.
Je suis pas au courant, surtout. Mon équipe n'est pas au courant, ouais. Ni mon premier ministre. Donc, on te revient dans quelques secondes, Marie-Ève. Tu vas nous parler plus, justement, du fédéral et ses nouvelles bébelles.
Ouais.
En attendant, on va écouter une pièce. Je vais vous la présenter comme il faut. Le groupe s'appelle Crab. C'est la pièce Musique électrique. C'est dans le palmarès de Choc. C'est rentré depuis 2 semaines. Juste vous lire le petit descriptif. Après plus de 14 années de zizik ininterrompu, le duo qui tend vers le haut, Crab fera paraître son 8e album Sentient, au pluriel, le 7 mai prochain sur Pantum Records. C'est Gabriel Lapierre et Martin Poulin-Légaré, le duo, qui sont très bons en spectacle d'ailleurs. Et sur cet album-là, il y a comme invité Hubert Lenoir, Laurent Sanne, Dan Mongrain de Voivode, Vincent Peake de Groovy Aardvark et d'autres. Et sur la pièce, ils sont pas mal toutes là. Et leur style, c'est punk et toutes sortes de choses. Donc, Crab est la pièce Musique électrique. Donc, le duo Crab, la pièce Musique électrique, dans le palmarès francophone de choc.ca. Marie-Ève, tu nous parles en deuxième partie de tes enjeux d'immigration Québec-Canada. d'une nouvelle plateforme, d'une nouvelle chose pour accepter les personnes qui rentrent au Canada.
Oui, ben c'est ça. On continue là. Tu sais, c'est en lien un peu avec ce dont je vous ai parlé dans le premier bloc. Le gouvernement fédéral a annoncé vouloir créer une nouvelle plateforme numérique pour l'aider justement à traiter plus rapidement les demandes d'immigration. Ça a passé dans le budget du 2021 là, un peu dans le beurre. Ottawa prévoit dépenser près de 429 millions de dollars au cours des 5 prochaines années pour mettre en place cette plateforme-là qui va remplacer progressivement le système de gestion qui est actuellement en place. Parce qu'il faut dire que les problèmes des délais de traitement dans les demandes de résidence permanente touchent pas seulement le Québec. Selon un chercheur de l'Université de Calgary, Robert Falconer, en 2020, le nombre de demandes de résidence permanente reçues par Ottawa était de 34 fois plus élevé que le nombre de demandes examinées. Mmh. Alors qu'en 2019, ce chiffre-là s'élevait, le pourcentage de la différence, à 21%. Le ministère a bien lancé un portail qui permet à certains candidats à la résidence permanente de postuler numériquement. Mais là, l'idée, c'est d'étendre éventuellement à tous les programmes de résidence permanente. Mais là, en attendant, il est disponible juste pour une sélection aléatoire, en plus, de candidats dans 7 programmes seulement. Faut rappeler qu'il existe environ 120 programmes d'immigration au Canada, hein, et que près de la moitié d'entre eux exigent que les candidats remplissent des demandes papier. Fait que, dans le fond, M. Falconer recommande d'améliorer en priorité l'intégration entre le système fédéral d'immigration et ceux des provinces. Parce que, on sait, là, les 10 provinces ont chacune leur propre processus. Par exemple, l'Alberta, son processus reposait seulement sur papier, mais a commencé à intégrer le numérique il y a environ 2 ans. Selon M. Falconer, il y a près de la moitié de toutes les personnes migrantes qui arrivent au pays dans le cadre des programmes de la catégorie économique qui passent par des programmes provinciaux. Fait que la nouvelle plateforme va être à surveiller, là. Ça va se faire de façon graduelle, mais ça va être à surveiller, surtout si on se base sur le fiasco du système Arima, justement, dont j'ai parlé tout à l'heure.
Est-ce qu'il y aura un match entre Arima et la nouvelle plateforme?
Il n'y a rien qui dit, tu sais,
tu parlais de Tinder tantôt,
c'est
là.
Ça.
Ouais, c'est ça. Puis il y a eu d'autres, il y a eu le système de loterie là au fédéral, au provincial, il y a eu d'autres systèmes. On dirait qu'ils veulent, comme si c'est changer la manière, ça changerait le fond du problème.
Ben non,
fait
c'est
que
ça.
Il y a trop de critères ou c'est trop contraignant,
exact.
Ou s'il n'y a pas assez de fonctionnaires qui s'en occupent ou des choses comme ça, tu sais. Mais on change le bébelle, puis.
C'est ça, comme si c'était de la magie, là.
Ben oui. Fait que c'est la faute des deux, Marie-Ève, t'as raison, finalement.
Puis évidemment, les délais de traitement des dossiers d'immigration sont particulièrement difficiles puis angoissants pour les réfugiés. Il y a le Conseil canadien pour les réfugiés, le CCR, qui demande d'ailleurs au gouvernement fédéral d'établir vraiment une norme là, de 6 mois maximum pour réunir les enfants séparés de leurs parents. L'organisme juge évidemment les délais actuels trop longs, surtout pour les enfants qui sont séparés de leurs deux parents, parce qu'on sait bien que des parents contraints de fuir leur pays d'origine finissent souvent par laisser leurs enfants à un grand-parent, un autre membre de la famille ou même parfois un voisin. Selon le CCR, le Canada est tenu par la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant de traiter les demandes de regroupement familial, à la fois d'une manière positive, humaine et rapide. Selon Janet Dench du CCR, il y a environ 35 familles qui l'ont contacté pour obtenir de l'aide afin d'accélérer les demandes d'immigration de leurs enfants. Il y en aurait beaucoup plus, là, évidemment, aux prises avec ce problème-là. Elle dit que de nombreux enfants souffrent psychologiquement en raison de la séparation de leurs parents, comme on peut s'y attendre. Elle a entendu des histoires déchirantes d'enfants qui crient à leurs parents parce qu'ils les jugent responsables de leur séparation. La détresse psychologique, donc, aussi des parents qui sont ici en attente est vraiment importante. Mm-hmm. Et en terminant, il y a Jennifer Wan, qui est une avocate spécialisée en immigration à Toronto, qui, elle, cite le cas de 2 parents réfugiés qui attendent depuis des années de voir leurs enfants, qui vivent toujours dans des conditions dangereuses en Inde. Les parents ont obtenu le statut de réfugiés au Canada en juillet 2019 et ont demandé que leurs enfants les rejoignent en octobre 2020, mais ils attendent toujours.
Donc, beaucoup de problèmes qui ne datent pas d'hier, comme
non.
on sait. Avec,
qui est généralisé.
Ce n'est pas la faute de la pandémie seulement, on s'entend là-dessus.
Non.
Merci Marie-Ève pour tes actualités en immigration Québec-Canada. On va poursuivre.
C'est un plaisir.
Un plaisir partagé. On poursuit avec une première depuis longtemps, la Minute coloniale. Et Simon vient nous en parler dans quelques minutes.
Les apatrides anonymes vous présentent la Minute coloniale. La France, pays des lumières éclairant la terre entière, atteint l'apogée de son singulier destin sous le règne de son empereur chéri, fils de la Corse, j'ai nommé le grand Napoléon Bonaparte, bien qu'il fût de petite taille. Suite à une regrettable révolution qui étêta fâcheusement monarques et nobles, celui que l'on surnommait affectueusement le petit caporal saura redonner à la douce France toute sa grandeur et sa superbe. De pays meurtri en perte de repères, la France devint la puissante métropole d'un riche empire qui civilisa les moindres confins des contrées les plus sauvages et pacifia l'Europe entière. Certes, notre empereur chéri dut rétablir l'esclavage et mater les révoltes de gens de couleur à Saint-Domingue, qui devint la République d'Haïti par la suite, mais administrer un empire exige parfois quelques sacrifices. Il n'était point animé de sentiments hostiles envers les populations noires des Antilles. En bon patriote, il les considérait simplement inférieurs et souhaitait en supprimer les éléments les plus radicaux pour les remplacer par de nouveaux esclaves venus d'Afrique, aux volontés moins belliqueuses et plus à même de servir cet idéal français de liberté. À sa place, vous auriez fait la même chose. Alors Napoléon, raciste, que nenni, c'était un homme de son temps. Il embrassait la science de l'époque. De plus, il partagea la couche avec Joséphine, cette créature métissée originaire de l'ensoleillée Martinique. Cessons donc ces fallacieuses calomnies et rendons grâce au plus grand des Français, celui qui eut presque autant de victoires militaires que de cuisantes défaites. Vive l'empereur, vive Napoléon et vive la France, cette fille aînée de l'Église. C'était la Minute coloniale présentée par les apatrides anonymes et par le Napoléon, un excellent fromage fermier de chez nous, aux notes fruitées qui s'allongent en bouche pour laisser place à une finale végétale.
Donc, une nouvelle Minute coloniale qui nous vient directement de France avec un homme de son temps, comme McDonald et tous ces gens-là, hein, Simon?
Ben oui, tout le monde était raciste à l'époque, c'est bien connu.
Bien sûr, tout le monde le souhaitait. Oui.
Donc, ben, on célébrait en mai, début mai, le bicentenaire de la mort de Napoléon. Puis, je crois que vous, Mathieu et Maria, vous avez vraiment célébré ça avec le petit fromage de Napoléon aussi.
Oui, oui,
donc,
tout à fait.
C'était une suggestion de Marie-Ève, d'ailleurs, d'en faire le retour de la Minute coloniale. Napoléon fait quand même polémique de plus en plus, donc ça commence à se fissurer un peu le vernis, on remet de plus en plus en question son héritage, les commémorations, noms de rues, monuments, on reconnaît de plus en plus son statut de génocidaire et d'esclavagiste, il a mis l'Europe à feu et à sang, il a conquis par l'extrême violence toutes sortes de nations, en Égypte, dans les Caraïbes, en Russie et... partout où il pouvait, finalement.
Où il pouvait se rendre.
Ouais. On estime, oui, parce qu'il y avait quand même des moyens énormes, mais limités.
De l'époque.
Le nombre direct de morts qu'il a causé, ce serait entre 2,5 et 3,5 millions, dont 1 million de civils. Ça, c'est juste dans ce qu'on appelle les guerres napoléoniennes. Ça ne comprend pas nécessairement l'esclavage et les conditions de travail, entre guillemets. Il a restauré la monarchie en France, il s'est autoproclamé empereur, il a réinstallé l'esclavage partout où c'était possible. Il a inscrit dans le Code civil l'infériorité de la femme par rapport à l'homme, déplacé des populations noires entières, donc des déportations de masse, interdiction d'entrée du territoire français continental pour les personnes noires, donc un vrai suprémaciste blanc complètement décomplexé qui n'hésitait pas à affirmer la supériorité des Blancs. Mais dans tout ce qui est officiel, gouvernemental, dans les livres d'histoire, il est toujours présenté comme un des plus grands héros de l'histoire française. Il a droit à un des plus beaux tombeaux du monde, selon mon humble avis d'apprenti architecte, donc en quartz rouge de Finlande, sous le dôme des Invalides à Paris. Mathieu et moi, on a eu la chance de visiter Ajaccio, donc tu te rappelles peut-être, en Corse, sa ville natale, où il a trois monuments, dont un au sommet d'une colline qui domine la ville, fermant une perspective monumentale. Là, c'est vraiment quelque chose. À ma connaissance, aucune statue de Napoléon n'a été déboulonnée jusqu'à maintenant, ni aucune rue n'est baptisée. On en a une à Montréal, d'ailleurs, une petite.
Rue Napoléon, ah oui, dans le plateau.
Qui part du Parc Mont-Royal, qui va vers l'ouest. En plus du bicentenaire de la mort de Napoléon, on soulignait officiellement le 10 mai en France la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions.
Okay.
Pour l'occasion, Emmanuel Macron présidait le 20e anniversaire de la loi Taubira qui reconnaissait l'esclavage comme crime contre l'humanité. Il a choisi de rester silencieux lors de la commémoration. Je vais citer Christiane Taubira, dont j'aime bien le verbe quand même, une fois de temps en temps. « Il est édifiant qu'il n'ait rien trouvé à dire sur plus de 200 ans d'histoire de France, alors qu'il y a 5 jours, il faisait des gammes sur Napoléon.
Mm-hmm. »
J'ai une autre citation pour vous. Je vais terminer avec ça, donc un peu moins édifiant. C'est de la part d'un certain Arthur Chevalier, commissaire d'une exposition qui a lieu actuellement sur Napoléon. J'ouvre les guillemets. « Sous le Premier Empire, tous les esclaves étaient noirs puisqu'ils habitaient dans les colonies où les gens sont noirs. » Donc, j'adore ce genre de petit arrangement avec la réalité.
Des beaux raisonnements circulaires, oui.
Oui, toujours pratique pour défendre son colonialisme. Alors, vive la France et vive l'empereur.
Merci, Simon. Donc, on va entendre quelques notes de musique et ensuite, on vous revient avec la suite de l'émission. Toujours à l'émission des Apatrides Anonymes, en milieu d'émission. Donc, on va parler, moi en premier, Simon ensuite, on va parler un peu de certains enjeux autochtones, donc, certains autochtones qui sont dans l'actualité. Il y en a beaucoup ici et ailleurs. Vous dire que j'avais une petite brève sur le Mexique, qui est un peu, malheureusement, ironique, façon de parler. Donc, le Mexique demande pardon aux Mayas. Hein, Simon, Napoléon, la France n'est pas rendue là, avec la Martinique, entre autres.
Dans 200 ans. Un autre 200 ans.
Un autre bicentenaire.
C'est ça.
Mais récemment, donc, au début mai, le Mexique, donc, a demandé pardon aux Mayas. Le président du Mexique, Obrador, et son homologue du Guatemala, Alejandro Giammattei, ont présenté officiellement leurs excuses au peuple indigène maya pour les torts commis à son encontre depuis la conquête espagnole. Ces excuses coïncident avec les 500 ans de la conquête du Mexique, la conquista. Le président du Mexique a déclaré, et je le cite, « Nous présentons nos excuses au peuple maya pour les terribles abus commis par des individus et des pouvoirs nationaux et étrangers pendant la conquête, les 3 siècles de domination coloniale et les 2 siècles de Mexique indépendant. Le gouvernement mexicain a reconnu le racisme et la discrimination dont souffre encore cette minorité ethnique 2 siècles après l'indépendance du Mexique. Mais est-ce que c'est un hasard, Simon, qu'il y a des excuses du Guatemala et du Mexique au peuple maya?
Tu me poses la question, mais je n'en sais rien.
Tu peux te douter que non, il n'y a jamais de hasard, hein, c'est sûr. La construction du train maya, projet phare du gouvernement mexicain actuel, a été évoqué lors de la cérémonie et a suscité les huées des habitants.
Il n'y a pas de gêne.
Il n'y a pas de gêne pendant la cérémonie des excuses dans un petit village de Maya, là.
Donc, on s'excuse, mais on va vous faire avaler une petite pilule.
C'est ça. Une ligne du train Maya longue de 1500 km est prévue pour traverser différentes parties de la péninsule du Yucatan. Plusieurs organisations rejettent la réalisation du projet, affirmant qu'il causera des dommages à l'environnement et à plusieurs communautés indigènes de la région. Donc, des excuses un peu factices et puis un beau projet pour aller amener des touristes dans vos quartiers et dans vos régions. Donc, on voulait faire une entrevue aujourd'hui sur la situation en Colombie, parce que ça brasse pas mal depuis quelques semaines, ça brasse depuis plusieurs années et décennies, mais ça a été dans l'actualité brièvement au niveau des grands médias dans les dernières semaines. Et là, depuis quelques jours, on entend un peu moins parler, et on a nos spécialistes de la Colombie qu'on a déjà reçus à l'émission il y a à peu près un an et quelques. Il s'agit des gens du projet Accompagnement Solidarité Colombie, le PASC. Le PASC, brièvement, vous dire qu'il est en lien avec plusieurs organisations sociales Lionel Labat, qui normalement, en temps hors pandémie, est plus sur le terrain aussi en Colombie en accompagnement. Et aujourd'hui, on voulait donc avoir un peu de nouvelles sur ce qui se passe directement sur le terrain et ce qui se passe autant au niveau des protestations que de la répression. Donc, on a avec nous au micro Florence Tifou, membre du PASC. Bonsoir.
Bonsoir.
Ça va bien?
Ça va très bien, vous?
Oui, merci, Florence, d'être avec nous pour cette entrevue. Je vais commencer directement avec une question qui va nous mettre dans le bain, évidemment. La grève nationale, qu'on appelle le PARO, si j'ai bien compris, a débuté à la fin avril et a fait face à une répression assez violente. 3-4 semaines plus tard, quelle est la situation et quel est le bilan, selon ce que vous en savez, de la répression?
Mais en ce moment, si on regarde uniquement les chiffres, là, on parle de les chiffres qui représentent des personnes, là, mais l'ONG Temblores a rapporté qu'entre le 28 avril, donc le début des mobilisations, et le 17 mai, donc il y a 3 jours à peu près, qu'il y a plus de 2387 cas de violence qui auraient été perpétrés par la police, qui ont été rapportés. Puis il y a 43 assassinats pour l'instant qui étaient considérés comme ayant été perpétrés par la police. Et sinon, la semaine dernière, on comptait plus de 500 disparitions forcées et des dizaines de cas d'agression à caractère sexuel. Puis ça, c'est les cas qui ont été rapportés aux organisations de défense des droits humains. Donc, le bilan, il est au-delà de ça, parce qu'évidemment, il y a des cas qui ne sont pas rapportés. Par contre, si je peux me permettre... Le fait que la grève nationale, quand elle a débuté le 28 avril, a été organisée par différents mouvements sociaux. Mais dès les premiers jours, il y a des blocages qui étaient organisés, mais au-delà des blocages qui étaient organisés, il y a plusieurs mobilisations qui se sont organisées dans les quartiers populaires. Et c'est dans ces quartiers-là, les quartiers les plus pauvres, où est-ce qu'il y a une répression plus forte qui a été émise. Et ben, comme tu l'as dit, dès les premiers jours, la répression a été très, très violente. Dans les manifestations, mais c'est ça qui a amené les gens à se mobiliser davantage. Donc, c'est quoi le bilan actuel? C'est que les mobilisations, elles continuent à grandir.
Okay.
En ce moment, en deux, trois mots, là, il y a 70-75% de la population colombienne qui appuie le PARO, donc environ 3/4 de la population, puis chez les jeunes, c'est 85-90% l'appui des mobilisations.
OK. Donc, c'est assez généralisé. Et dans le pays, c'est à peu près partout que ça se passe aussi, hein, j'ai l'impression.
Oui, exactement. Donc, il y avait certaines mobilisations dans les centres urbains, puis aussi dans les mouvements paysans se sont joints aux mobilisations. Il y a des blocages un peu partout dans le pays. Une des choses qu'on voit qui est inhabituelle, par contre, en ce moment, parce qu'il y a des mobilisations puis de la répression, il y en a eu dans l'histoire de la Colombie, puis ce qu'on voit qui est un peu plus inhabituel en ce moment, c'est qu'il y a le gouvernement utilise les forces militaires et paramilitaires aussi dans les mobilisations qui se font dans les villes. Et ça, depuis 2 jours, on voit l'armée qui est très, très, très... armées, OK? Ça peut paraître comme redondant, mais
fortement armées,
exactement. Puis qui filment et qui intimident les manifestants directement dans les manifestations. Puis, par rapport aux mobilisations qu'on a vues précédemment, mais s'il n'y a pas plus de pression qui est mise, le gouvernement y envoie un message que les manifestations, c'est des actes terroristes, les manifestations sont liées au mouvement de guérilla. Ben, ça met un message qu'on peut tuer les gens. Donc ça, c'est quelque chose qui est arrivé dans les derniers jours, que le gouvernement dit qu'ils vont hausser la répression encore plus, alors qu'au niveau international, c'était déjà dénoncé qu'il y avait énormément de répression.
Fait que c'est comme s'il y avait un état d'urgence sans le dire, finalement. Là. Sans que ce soit officiel. OK. Dis-moi, Florence, cette mobilisation-là a pris officiellement forme, en tout cas pour les gens qui sont à l'extérieur de la Colombie, qui suivent un peu moins l'actualité, suite à l'annonce d'une fameuse réforme fiscale qui était qualifiée d'injuste, qui a été retirée par la suite en partie. Par contre, la situation sociale, politique, économique en Colombie est difficile depuis plusieurs mois, plusieurs années pour les populations. Est-ce que tu peux nous remettre brièvement dans le contexte des derniers mois, qu'est-ce qui se passait avant que tout ça arrive?
Bien, c'est sûr qu'on peut remonter à l'histoire entière de la Colombie. Là, il y a un article qui est sorti dans le Nouveau Cahier du Socialiste qui fait l'état des raisons structurelles là, du conflit en ce moment social et armé en Colombie. Mais si on remonte en 2019, il y a déjà un paro national, donc une grève nationale illimitée, qui avait été organisée par les mouvements sociaux qui s'unissaient et qui prenaient de la vigueur depuis les dernières années. Et ces mobilisations, elles ont été assez fortes jusqu'en mars 2020, au début de la pandémie. Déjà au moment du paro de 2019, il y avait des demandes qui visaient des transformations sociales pour les droits des travailleurs, des travailleuses, le droit des femmes, le droit à l'éducation, les demandes des groupes paysans. Il y avait aussi le fait que durant le paro de 2019, l'accord de paix, on dénonçait qu'il n'était pas bien mis en place et que malgré ça, le conflit il poursuivait. Il y a un des éléments très présents aussi, c'est que dans la dernière année, le président Duque a présenté une réforme au niveau de la santé, du système de santé qui visait à privatiser les services de santé.
Évidemment.
Et comme il l'a fait pour la réforme fiscale, il l'a retiré, puis ensuite il l'a représenté et tout. Donc quand il a retiré la réforme fiscale au mois d'avril là, ou au mois de mai, les gens ils disaient ben on n'est pas, on n'y croit pas vraiment au fait que ce soit retiré. Puis donc c'est ça, il y a aussi tout un historique, c'est avec la violence d'Uribe Vélez. Il y a 2 mois, il y a un rapport de la justice transitionnelle qui a mis de l'avant que 6402 jeunes civils avaient été assassinés par les forces armées. Ils étaient présentés comme des membres de la guérilla, comme s'ils étaient morts au combat. Et ça a aussi relevé une indignation beaucoup plus grande. Bref, il y a un sentiment d'indignation grandissant. Avec la pandémie, la pauvreté a augmenté. Donc, vraiment, au niveau des quartiers populaires, ça vient créer aussi ce sentiment d'indignation de la goutte qu'on peut plus prendre.
Mm-hmm. Oui, oui. Puis, c'est sûr, on n'a pas parlé des accords de paix qui sont pas respectés, d'un paquet de choses. Donc, c'est sûr qu'il y a tout un contexte assez particulier. Puis, on va parler tantôt, après une pause musicale, aussi des activités extractivistes du Canada aussi. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux autour de la Colombie. Mm-hmm. Donc,
tout à fait.
On vient avec Florence Dupasse dans quelques minutes. On va entendre une pièce d'une rappeuse féministe française qui s'appelle Héros Écho. La pièce s'appelle Saint-Jean. Elle est sortie le 24 juin 2020. Elle vient de Poitiers, elle est maintenant à Nantes, et elle a sorti un premier EP qui s'appelle Deux vies en avril 2015. Donc, on y va avec cette pièce qui s'appelle Saint-Jean de Héros Écho.
Ce monde est malade, nos rires retentiront, contamineront l'au-delà. Terrain glissant, c'est pas par hasard si on dérape. On se croit brave dans nos blocs, mais le courage porte un gilet noir. Saint-Jean dansé, masqué dans le love. Main dans la main, amitié et flamme, l'or est là. Pour allumer nos feux, on n'a pas besoin de candélabres. Alcool, bouteille, tissu, lancé sur des candélabres.
pour mes queers et mes insolentes. On va switcher la honte en les harcelant. Quand on cramera le monde façon insolation, on le reconstruira de nos mains solo.
Héros Écho, la pièce Saint-Jean, une nouveauté de 2020. Donc, toujours en entrevue avec Florence Dupasque. Toujours là, Florence?
Oui, toujours là.
On va faire la deuxième partie de l'entrevue. J'en ai parlé un petit peu avant la pause musicale. Donc, le mouvement actuel demande plein de choses, dont le départ du président Duque et de son gouvernement d'extrême droite, l'arrêt des réformes néolibérales, t'as parlé de la santé, puis de la fiscalité, et le respect de l'accord de paix. Mais en Colombie, il y a beaucoup de luttes populaires, il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de conflits. Est-ce que tu peux nous parler d'une lutte ou deux autres que celles qu'on a beaucoup entendu parler dans les médias?
Mais exactement, il y a beaucoup de luttes populaires, c'est difficile de parler de juste une ou deux.
Ouais.
Dans celles dont on parle moins d'habitude au PASC, au projet Accompagnement Solidarité Colombie, je pense que il y a le fait qu'en ce moment, on voit beaucoup les quartiers populaires s'organiser, sortir dans les rues et tout. Et donc, ça montre qu'il y a un niveau de désespoir qui a été atteint dans le pays et que là, on veut briser ce cycle de désespoir. Mm-hmm. Donc, on assiste vraiment en ce moment à un mouvement puis un moment d'empowerment des secteurs plus populaires en Colombie, notamment provoqué par la crise actuelle. Sinon, au niveau de différents mouvements, je pense au mouvement carcéral qui est très fort en Colombie. Il y a eu plusieurs grèves dans les prisons pour dénoncer les conditions absolument atroces que les gens vivent à l'intérieur. Donc, que ce soit au niveau de la mauvaise alimentation, de la mauvaise hygiène, des mauvais accès aux soins de santé, des mauvais traitements que vivent les gens, la surpopulation carcérale, c'est absolument phénoménal en Colombie. Des temps de détention qui sont aberrants pour des personnes qui ont même pas encore eu de procès à certains moments. Donc c'est vraiment un système pourri, le système carcéral. Mais le mouvement carcéral ou anticarcéral est très fort. Ouais, pour les droits des personnes détenues, etc. Ouais.
OK. Donc, puis je t'amène sur un terrain aussi que le PASC, dont vous travaillez beaucoup là-dessus, c'est-à-dire le rôle du Canada et des compagnies canadiennes dans ce qui se passe, entre autres, en Colombie. Actuellement, est-ce qu'il y a une différence, dans les derniers mois, disons, est-ce qu'il y a une différence qu'on peut de conséquences ou de causes qu'on peut relier au Canada en lien avec des exactions, des abus commis en Colombie? Est-ce que ça peut avoir joué un rôle dans l'espèce de conflits ou de climat social et politique des derniers mois?
Historiquement, je pense que ça a un rôle important à jouer, mais si on regarde plus ponctuellement, cette année, on célèbre, je sais que c'est un mot que Marie-Ève va beaucoup apprécier, qu'on célèbre les 10 ans de l'accord de libre-échange entre le Canada et la Colombie. Un accord qui donnait des grands avantages, notamment fiscaux, là, et des protections aux entreprises canadiennes au détriment des populations locales. Donc, c'est sûr qu'en bénéficiant de les entreprises extractives de ces protections, mais il y a des violations de droits humains qui sont liées à l'exploitation des ressources naturelles là-bas.
Mm-hmm.
Et ce qu'on peut voir dans les dernières années, c'est que grâce à l'accord de libre-échange, il y a des entreprises canadiennes, 9 pour être plus précise, qui poursuivent l'État colombien actuellement pour des sommes de millions de dollars pour des projets extractifs qui ont été freinés, soit parce que les zones d'exploitation étaient déclarées comme zones protégées, soit parce que la population s'opposait. Et là, des entreprises comme par exemple Eco Oro Minerals, ils disent « Ah ben là, nous, on n'a pas les revenus économiques qu'on pensait avoir, donc ils poursuivent sur les bases de l'accord de libre-échange. »
Les petites clauses des accords de libre-échange, oui, c'est ça.
Sinon, dans les... Pardon, allez-y.
Non, c'est ça, c'est les petites clauses de perte anticipée de profit, là.
Exact. Mais plus ponctuellement, dans les mobilisations actuellement, on voit du matériel militaire, là, du matériel que la police utilise dans les manifestations qui a été vendu par le Canada ou par des entreprises canadiennes. On voit le logo du Canada sur certains chars blindés, c'est des véhicules ultra armés. Et il y a des sources qui vont même parler d'une initiative bilatérale de police entre le Canada et la Colombie pour montrer des liens étroits entre comment la police va être formée, par exemple, pour réagir à certaines situations dans les mobilisations. Puis finalement, pour la responsabilité du Canada, l'accord de paix, il a été signé devant la communauté internationale. Donc ça engage toute la communauté internationale à assurer la paix en Colombie. On sait que ça n'a pas été le cas dans les dernières années. Depuis 2016, à peu près aux 2 jours, il y a un défenseur de droits humains qui est assassiné en Colombie. Juste pour donner un exemple parmi tant de violences qui continuent à avoir lieu. Donc, c'est sûr que le Canada, il y a un rôle, il y a une responsabilité. Les investissements économiques en Colombie sont immenses. Donc, le Canada, il doit se prononcer pour que ça arrête les violences en ce moment, puis la répression.
Et évidemment, le Canada ne se prononce pas vraiment sur ce qui se passe en Colombie. On n'a rien entendu vraiment d'officiel ou avec un ton un petit peu plus ferme. On n'a rien entendu dans les dernières semaines. Donc, tu viens de nous expliquer pourquoi, entre autres, là.
Exact. C'est pas assez contraignant.
Tout à fait. En terminant, Florence, je voulais souligner que les choses dont on a parlé aujourd'hui se retrouvent entre autres dans un article que vous avez publié sur le site Contrepoint de la part du PASS, donc cette semaine. Je voulais aussi te demander en terminant, est-ce qu'il y a une mobilisation locale ou nationale au Canada qui se déroule dans les prochaines semaines en lien avec la situation en Colombie?
Oui, il devrait y en avoir une dans la fin de semaine. Nous, on publie sur notre page Facebook, pardon, ces informations-là. C'est sûr qu'en ce moment, les actions, elles s'organisent vraiment au jour le jour parce qu'on est dans une situation d'urgence tellement intense que les actions s'organisent à une rapidité phénoménale. Donc, en 2 jours, il peut y avoir une action, puis nous, on va la publier. Mm-hmm. Puis les rassemblements qu'on voit à Montréal en ce moment, c'est dans les plus gros rassemblements qu'on a vus en solidarité avec la Colombie là, dans les dernières années. Donc, c'est assez impressionnant de voir cette solidarité, les gens qui se mobilisent pour plus de justice sociale, puis pour moins de répression.
Ben oui, tout à fait.
Plus de répression.
Puis les gens, évidemment, suivent l'actualité de plus en plus. Et on encourage les gens à l'écoute, à suivre vraiment ce qui se passe en Colombie, même si les grands médias en parlent un peu moins depuis quelques jours, de suivre, entre autres, la page Facebook et le site Internet du projet Accompagnement Solidarité Colombie, le PASC. Merci beaucoup, Florence, pour le temps passé avec nous.
Merci.
Puis, ben oui, puis bonne lutte pour les prochaines semaines.
Merci.
À bientôt. On va y aller avec quelques notes de musique et on revient avec Simon et les actualités autochtones.
Et oui, des actualités autochtones. Ça pourrait ressembler à ce qui se passe en Colombie avec toutes les entreprises extractivistes qui sont canadiennes en Colombie, mais canadiennes au Canada aussi, qui souvent s'opposent à des nations autochtones. Par contre, je vais plutôt parler de... Ça va être un genre de pot pourri de nouvel budget fédéral, budget provincial. Une petite technicalité juridico-territoriale aussi qui risque de vous intéresser. On n'a pas beaucoup parlé de Simon-Jolin Barrette. Il y a eu sa réforme de la langue française, donc peut-être le rapport, bon, c'est une réforme sur la langue, et c'était, je crois, Mélissa Molin-Dupuis qui faisait remarquer qu'il n'y a absolument aucune mention d'aucune langue autochtone dans
c'est
ce
vrai.
Projet de loi-là.
Loi 96, oui.
Ouais. Projet de loi 96, donc vraiment l'invisibilisation à peu près absolue.
Bon point, je n'avais pas vu non plus.
Alors, budget fédéral, je vais commencer avec ça. Ne mentionnait aucun moment le mot « génocide », mot qui avait pourtant été accepté, qui avait été prononcé par Trudeau en 2019 suite au rapport de l'enquête sur les femmes et les filles autochtones et inuits assassinées et disparues. On a changé le vocabulaire. On parle, pour parler des féminicides autochtones, on parle de tragédie nationale maintenant. Mm-hmm. Et non plus comme un génocide dûment nommé.
Ça veut rien dire, ouais.
Ben, ça veut dire ce que ça veut dire. Génocide, par contre, il y a vraiment des responsabilités légales, juridiques, morales qui sont rattachées à ça, ce qui n'est pas le cas de juste dire, effectivement.
Il y a des gens qui ont fait des choses. Ouais, tout à fait.
C'est ça. Donc,
National, ça peut être un grand, tu sais, un cataclysme, ça peut être un effondrement de quelque chose.
Ça peut être la COVID. Ça peut être pas mal de choses. Peut-être rappeler aussi que bon, il y avait un plan d'action qui était prévu visant à faire suite à ce fameux rapport-là de l'enquête nationale sur les femmes autochtones disparues. Donc, ce rapport-là se fait attendre depuis se fait attendre depuis 2019. La ministre des Relations Couronne autochtone, j'étais pas sûr d'avoir entendu. Madame Caroline Bennett, elle veut pas donner de date pour le dévoilement d'un plan d'action à venir, donc ce sera pas pour bientôt, je crois. Toujours dans le budget fédéral, tourisme autochtone. autochtones. L'Association touristique autochtone du Canada, la TAC, demandait 68 millions de dollars et la TAC subventionne normalement 700 entreprises autochtones chaque année. Elle a eu droit à 2,4 millions, donc un peu moins de 3 % de ce qui était demandé. Faut rappeler que les entreprises installées dans les communautés ne peuvent bénéficier d'aucun prêt de la part d'aucune banque en vertu de la loi sur les Indiens. C'est un secteur qui était en expansion, le tourisme autochtone, mais qui est en grande difficulté à cause de la pandémie, évidemment, et qui a vraiment besoin d'un gros coup de pouce. Secteur que plusieurs communautés jugent très porteur, très névralgique dans les différentes communautés, avec des retombées économiques directes, oui, bien sûr, mais on parle aussi beaucoup de retombées sociales et culturelles. Considéré comme un excellent moyen de faire découvrir les cultures autochtones aux touristes et aussi sensibiliser à plusieurs enjeux environnementaux. L'été 2021 s'annonce donc particulièrement difficile et on pense que plus d'argent pourrait permettre de sauver les entreprises, mais que dans le contexte, une bonne partie d'entre elles devront fermer définitivement, probablement.
Ben oui.
On passe maintenant au budget provincial à Québec. Ça date de mars, mais récemment s'est tenue l'étude des crédits budgétaires des affaires autochtones. Une belle présentation de Yann Lafrenière.
Il est bon, hein?
Il est parfait, je dirais. Donc, ça portait entre autres sur le suivi des recommandations de la commission Vient, sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec, et aussi sur, bon, la fameuse enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues assassinées. Yann Lafrenière a baptisé son plan d'action « J'ai espoir ». C'est quand même...
À la première personne du singulier, hein?
Ouais. Oui, bien, on peut dire, bien, Yann a espoir.
De quoi, on ne sait pas trop, mais...
Espoir. Point final. C'est quand même, bon, il y a quand même 200 millions qui sont prévus, mais la commission Vient voulait voir la mise en place de 500 recommandations. On déplore l'absence de mécanismes de transparence qui permettent de suivre la progression des mesures de leur mise en place. Donc, il va falloir se fier entièrement aux communications du gouvernement ou du ministre pour savoir où on en est dans la mise en place des 500 mesures de la commission
Vient. Et le 200 millions, ça, c'est date d'il y a 3 ans. C'est le même 200 millions suite à la commission, mais c'est pas dans le nouveau, il n'y a pas d'argent neuf dans le nouveau budget cette année.
Les articles que j'ai lus n'étaient pas clairs là-dessus. Donc, c'est une reconduction de vieil argent.
Il dépense tranquillement le 200 millions suite à la commission Vient, mais il n'y a pas de nouvel argent cette année dans le budget.
Mais à chaque année, on fait quand même une belle annonce.
Oui.
OK. Ah, c'est une belle stratégie.
J'ai espoir que cet argent sera dépensé.
Donc, Marie-Ève a espoir. Donc, elle est la première des trois apatrides. Espérons qu'elle nous contamine. On calcule qu'on a besoin d'urgence de 10 000 logements abordables pour les communautés autochtones. Et on ne sait pas du tout non plus où on en est sur cette question-là. Il n'y a pas de chiffres. Il n'y a pas d'études.
Ben, il y a eu 500 logements annoncés dans Axelogie pour l'ensemble du Québec cette année.
Fait que... c'est un programme.
Oui.
Donc, c'est difficile d'avoir un portrait d'ensemble.
Non, mais c'est parce que si tu en annonces 500 puis tu as besoin de 10 000 juste pour les Autochtones,
c'est sûr qu'il y a un petit léger déficit, mettons. Un autre point important de la commission Vient, c'était l'amélioration des conditions de détention, donc populations autochtones qui sont surreprésentées en milieu carcéral. Donc, c'est une question qui n'a pas du tout été abordée par Yann Lafrenière lors de cette étude des crédits. Deux éléments qui ont été salués, donc il faut quand même être positif.
Vas-y, Simon.
L'émission achève, on veut pas vous laisser sur une note trop triste. 2 millions de dollars sur 2 ans pour soutenir dans leur recherche les familles d'enfants autochtones disparus suite à une admission dans un établissement de santé. C'est quand même fou là, comme enjeu.
Oui, oui, mais c'est un enjeu de certaines familles depuis longtemps. Ouais.
C'est incroyable. Et une autre somme de 1,4 million de dollars, celle-là, pour une campagne de sensibilisation sur le racisme envers les Autochtones. Donc, est-ce que j'ai le temps pour une petite nouvelle qui rapidement, c'est une technicalité, comme je disais en intro, juridico-territoriale. Le gouvernement fédéral a déclaré en 1956 que la Première Nation Sinixte était éteinte. La Cour suprême a récemment tranché, la Nation Sinixte n'est pas éteinte et elle a des droits. Donc, elle a été pendant plus que 50 ans juridiquement inexistante au Canada. En fait, ses membres avaient été déplacés aux États-Unis et pourront continuer de chasser sur leur territoire ancestral en Colombie-Britannique. Leur migration du BC vers l'État de Washington ne leur a pas fait perdre leur identité, selon la Cour suprême.
La Cour suprême, oui.
En conséquence, bon, ça donne le droit de venir chasser puis sur un territoire qui est ancestral, qui est protégé. Ce jugement-là pourrait aussi aider à la reconnaissance légale de certaines nations par le gouvernement canadien, parce qu'il y a tout souvent des combats juridiques pour ne pas reconnaître certaines nations.
Exactement, ouais.
Donc, c'est un précédent juridique intéressant qui met en relief l'absurdité de nos frontières coloniales qui ne tiennent pas du tout compte des réalités autochtones. On traçait des lignes droites en plein milieu d'une terre occupée par une nation, donc on l'a divisé en deux. On faisait abstraction par la suite des migrations, qu'elles soient forcées ou non. En classe, ça veut dire que les Autochtones nés aux États-Unis, mais ayant des liens historiques avec le territoire canadien, ont des droits selon la Constitution canadienne. Donc, il faudrait vérifier si l'inverse s'applique aux États-Unis. J'ai pas réussi à trouver l'information.
Bonne question.
Puis aussi, avant de déclarer une nation éteinte, peut-être faire preuve d'un peu de prudence et...
Faire un peu de recherche.
Un peu de recherche. On peut penser... Il y en a beaucoup aussi des communautés qui vivent à la fois des deux côtés de la frontière, les Mohawks ici, Ontario, ouais. Québec, New York, Passamaquoddy au Nouveau-Brunswick et dans le Maine. Et je termine avec une pétition, plus on revient à Montréal, plusieurs petits camps de personnes itinérantes à travers la ville, certains presque exclusivement autochtones. La police, l'École bleue en ont démantelé plusieurs. Il y en a un actuellement à côté du métro Mont-Royal.
Chut! Ils vont le savoir.
Ah, c'était dans les journaux.
C'était une blague.
Je sais pas s'ils lisent les journaux, mais en tout cas, il y a une première pétition qui avait été lancée par des résidents et des commerçants inquiets pour faire démanteler le camp de Fortune. En réponse à ça, une deuxième pétition a été lancée pour qu'on laisse tranquille le campement et en plus pour qu'on fournisse de l'assistante, de la nourriture, peu importe. Les deux instigateurs de la pétition, je les nomme Ted Rutland, Chelsea Kingsett. C'est ça, demande à l'arrondissement de permettre à ces personnes-là de situation d'itinérance de continuer à pouvoir se rassembler près du métro Mont-Royal. Fournir du soutien, travailler avec les communautés autochtones pour trouver des solutions à un peu plus long terme. La pétition est sur change.org et elle s'appelle « Résidents du plateau en solidarité avec la communauté autochtone ».
Merci Simon pour toutes ces actualités nombreuses et diversifiées et partout au Canada en plus. Peut-être que je voulais dire en terminant sur la question autochtone que c'était la grosse semaine de la commission, de l'enquête du coroner, de la coroner sur la mort de Joyce Echaquan. Et je voulais souligner à nos auditeurs auditrices qu'il y a eu beaucoup d'articles de fond sur d'autres cas, entre autres dans la presse, dans le Devoir, les médias de masse s'y mettent vraiment, puis ils sortent des histoires sur des femmes et des hommes de différentes communautés au Québec. Aller faire un tour là-dessus, c'est vraiment, c'est pas très drôle à lire, là, c'est vraiment un peu traumatisant, mais ça vaut vraiment la peine de s'informer là-dessus.
Ça prend fin le 2 juin. Moi, très hâte de lire le rapport là-dessus.
Oui, dans quelques semaines, quelques mois. Donc, on va se terminer tranquillement l'émission. Je voulais vous parler un peu plus d'Israël-Palestine, mais je pourrais peut-être en parler la semaine prochaine. J'ai ramassé beaucoup d'articles sur différents angles, différents enjeux, entre autres sur les Arabes israéliens, donc ces citoyens palestiniens d'origine qui ont été inclus en 1948 dans l'État d'Israël, qui sont maintenant des citoyens et qui se révoltent aussi à l'intérieur. C'est la première fois depuis plus de 70 ans. Il y a aussi les enjeux en Cisjordanie. Il y a les enjeux aussi à Jérusalem, dont on a parlé au début du soulèvement puis de la répression, mais ça continue aussi. Gaza, évidemment, aussi. Il y a eu des manifs à Montréal, il y a des manifs partout dans le monde. Donc, je pourrais peut-être vous en parler un peu plus dans un bloc la semaine prochaine avec un peu de recul. Sûrement que le cessez-le-feu sera fait parce que la pression est forte, mais ça va continuer comme conflit et les arrestations, entre autres, des Arabes israéliens, les 700 arrestations en 3 jours qu'on n'a pas entendu parler avec la torture et tout, c'est vraiment pas drôle ce qui se passe là-bas non plus. Il y a des parallèles à faire avec la Colombie, d'ailleurs.
Comme le fait que nos gouvernements réagissent pas très
pareil
fort.
Comme en Colombie, exactement, c'est ça. Donc, j'en parlerai plus parce que là, on a un petit peu débordé, mais on a eu une bonne entrevue, on a eu du bon contenu. Donc, on va terminer là-dessus. Je vais remercier Simon pour toutes ces informations qu'il nous a fournies aujourd'hui.
Ça fait plaisir. Merci à toi, Mathieu, à l'animation.
Oui, puis la Minute coloniale, évidemment, qui était bien drôle, bien ironique.
Vive l'empereur.
Vive l'empereur. Merci, Marie-Ève, pour ton contenu et la mise en onde.
Merci. C'est toujours un plaisir.
C'est toujours un plaisir, hein? Donc, on va se reparler le 3 juin à 18h30, dans 2 semaines. Et qu'est-ce qu'il y aura plus dans 2 semaines, Marie-Ève et Simon?
FB!
Non, CF. CF. Couvre-feu.
Couvre-fou, comme j'ai déjà lu.
Get out. Donc, on va se laisser avec la musique, évidemment, un groupe, un cassoir montréalais de jazz, on n'en passe pas souvent, qui s'appelle Code Quartet ou Code Quartet. La pièce Wind de l'album Généalogie qui est sorti en avril dernier, il y a un mois. C'est un super groupe de Montréal créé en 2017. La pièce qu'on va entendre, c'est une compo de Christine Jensen au saxophone. Il y a Jim Doxus à la batterie, Adrienne Vedadi à la contrebasse et Lex French à la trompette, donc des super musiciens, improvisateurs et musiciens et compositeurs de Montréal qui sont dans plein de projets. Et la bonne nouvelle, c'est que je peux annoncer un concert. ils sont en concert le 1er juillet à l'Astral. Donc, on annonce pas souvent des concerts ces temps-ci. Donc, c'est Code Quartet ou Quartet.
Quartet, merci.
La pièce Wind. Et on va se terminer, on va terminer l'émission là-dessus. Donc, merci à tout le monde d'assister à mes collègues qui rient de moi. Et on va se reparler donc le 3 juin sur les ondes de choc. Allez voir notre page sur le site de l'émission et notre page FB. Et je vous souhaite une très belle soirée. Merci Simon, merci Marie-Ève.
Bonne soirée.